Alors, on est dans les studios de Divergence FM, on est au cœur de Montpellier et on reçoit, je dirais, quelqu'un qu'on connaît bien quand même.
Un
petit peu quand même. Et qui représente la Casa Amadis.
Oui.
Et c'est Tito Livio, on dit.
Tito Livio Santos Mota.
Oh là, alors c'est un peu trop long pour nous, mais vous n'êtes pas venu seul parce que vous venez nous présenter une exposition dans le cadre des 20 ans de l'association culturelle que vous présidez. Alors cette association culturelle, elle est située à quel endroit, Montpellier ?
Richter, place de la Révolution française.
Place de la Révolution française, voilà un bon départ.
Oui.
Surtout actuellement, vous avez remarqué, là,
oui.
On est un petit peu...
On
est en situation un peu révolutionnaire. Alors, il y a une exposition que je vous laisse présenter avec l'artiste qui est dans nos studios.
Alors,
je vous laisse faire.
L'association, c'est une association culturelle de langue portugaise, donc défend la culture et la langue portugaise, a été créée il y a 20 ans. En fait, les activités ont commencé en 2004, donc on fêtera ça l'année prochaine.
Mais c'est la 20e année.
Oui, mais comme toutes les choses qui sont essaient d'être bien faites, donc la programmation, ça prend minimum un an pour faire. Donc c'est pour ça que ça a commencé l'année suivante. Alors là, on fait une exposition parce que José Teófilo Duarte, on a toujours des noms
bonjour,
à rallonge.
Bonjour, d'abord. Vous avez toujours des noms à rallonge, hein, c'est ça?
Parce que José Duarte, il y en a des millions, et José Teófilo Duarte, il n'y en a qu'un. Voilà. Ça tout s'explique.
Bon, voilà, alors, donc une exposition qui va avoir lieu chez vous.
Chez nous. Alors, en plus, il se greffe le 50e anniversaire du 25 avril, la révolution des œillets.
Et oui. Encore une révolution, décidément.
Voilà. Et donc, nous a été proposée cette exposition qui est basée sur... alors, c'est un travail personnel, il va nous expliquer ça, mais beaucoup inspiré d'un très grand poète. Le travail de José Afonso, exactement, qui est l'auteur de la fameuse chanson de la Révolution des œillets, qui a été chantée par John Byers, par exemple.
Par exemple, oui, c'était une époque extraordinaire quand même, ce qui s'était passé au Portugal il y a 50 ans. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas nés à cette époque-là, mais pour ceux qui ne le savent pas, replongez-vous dans l'histoire. Hein, ça a été quand même une sacrée révolution.
C'était surtout très amusant aussi à faire, parce qu'on l'a faite tous les deux hein, quand même. Hein.
Oui. Hein? Ah oui.
Hein? On l'a faite.
La révolution.
Oui.
C'était une révolution populaire, ça a été fait par le peuple.
Alors, on va revenir à votre exposition.
Oui.
Donc, ce sont des tableaux, ce sont des... Qu'est-ce que vous
utilisez ? Oui, sans peinture, j'écris cette parole. Cette exposition est basée sur les mots de José Afonso. Ce sont métaphores visuelles de la réalité. José Afonso a changé la musique portugaise.
D'accord.
C'est un poète et un compositeur qui a dénoncé le fascisme au Portugal avec des paroles qui constituent la dénonciation. C'est-à-dire des mots qui parlent de ce qui nous attaquait avec d'autres mots qui échappent ainsi au censeur fasciste.
Oui. Échapper ainsi
mon français c'est
oui, écoutez, bon. Si vous connaissiez mon portugais vous parliez beaucoup
mieux
français
pas la même chose.
Mais heureusement on a Tito avec nous, donc il peut passer de l'une à l'autre
langue. En fait, ce qu'il veut dire c'est que c'était un auteur qui était très important. Il était musicologue aussi, donc il est important pour la révolution de la musique effectuée à l'époque.
Il a changé tout, oui.
Exactement, c'était un artiste total et les
engagé,
mots,
donc on a bien compris.
Voilà, et les mots ont beaucoup d'importance parce que d'abord il y a la phase où pendant le fascisme, si je me trompe pas, tu me corriges. Pendant le fascisme, évidemment, il fallait trouver les mots pour dire les choses qui passent à la censure.
Sans que ça soit possible de se retrouver en prison. Il fallait faire attention.
Oui, exactement. Oui. Et après, il y a eu la libération de la parole. Voilà, on en était là.
On était à la libération de la parole. Et puis, il faut savoir aussi que cette exposition, elle est aussi écrite par une dame qui est dans notre studio là-bas. Elle a participé donc à l'exposition en faisant des textes. C'est ça, Tito, hein?
C'est à elle de répondre.
Non, elle préfère pas, donc, Tito, c'est pas grave. Donc, alors, c'est à la fois des textes et des peintures.
Oui. Voilà. Alors, ce sont des textes et des peintures, mais c'est à lui de m'expliquer, parce qu'il sait mieux que moi. Moi, les problématiques artistiques, je suis né dans un milieu d'artistes, alors je sais qu'il ne faut pas s'en mêler, parce que c'est eux qui savent.
Alors, oui, mais son travail visuel, mais les mots sont de moi et de José Afonso. Et ce sont les mots que l'esthétique de le travail sont les mots et c'est à partir des mots que j'ai fait le travail.
Voilà, c'est esthétique. Alors, on a bien compris, hein.
Il faut mettre un point là-dessus.
Oui, Tito,
c'est que José Tioff, c'est un grand graphiste, c'est quelqu'un de très important. Il va pas me contredire parce qu'il travaille quand même pour des gens. Quand j'ai vu pour qui il travaillait, j'étais absolument époustouflé parce que il travaille quand même pour les gens les plus importants au Portugal. Et donc, en tant que graphiste, déjà, il est un grand artiste. Oui. En plus, il est curateur d'exposition. Il est responsable, par exemple, de la programmation du Centre culturel de Setúbal. Et il connaît tout le monde. Et il organise aussi le plus grand festival de centres de presse au Portugal, peut-être même dans la péninsule. Et donc, c'est quelqu'un dont le travail graphique est très intéressant à découvrir parce qu'il ne fait pas beaucoup. Je trouve qu'il ne fait pas assez pour son travail personnel.
Ça, il s'occupe beaucoup des autres.
Des autres, exactement.
Des autres.
Et là, je suis très content que pour une fois, il pense à lui. Voilà.
Voilà. Donc, vous faites participer d'autres artistes à des expositions que vous organisez.
Oui.
Et donc,
la
là...
Fête de l'illustration,
Mais là, c'est vous la vedette, là.
Oui, là, cette fois-ci, c'est lui.
Oui.
Et avec madame aussi pour le texte.
Ah,
voilà. Donc,
c'est la curateur.
Voilà. Alors donc, Tito Livio, donc, vous avez la chance de recevoir quand même ce grand artiste pour ses 20 ans de la Casa Amadis. C'est un honneur, comme vous dites.
Oui, parce que... Ça correspond à ce qu'on veut faire ici. Hein. On a toujours voulu, et je crois qu'on a un tout petit peu réussi dans la région, parce que nous ne sommes pas seuls en France à faire ça, donner une image différente du Portugal, pas cette image que les Français aiment bien avoir, surtout ceux qui aiment bien profiter des Portugais, d'un pays rural et un peu attardé dans l'histoire.
Oui.
Et donc, bon, maintenant, il y a des gens comme Tiago Rodriguez, etc., qui nous font la gentillesse de montrer le contraire. Mais quand on a commencé il y a 20 ans, à part Amalia Rodriguez, personne n'était connu.
Alors, moi aussi, je vais faire un peu de votre publicité, si j'ose dire. Parce que vous êtes intéressé beaucoup à la littérature portugaise. Et vous avez enseigné et vous l'avez fait connaître à Montpellier.
Oui, et on a créé une bibliothèque, la seule bibliothèque où tout public peut accéder, en langue portugaise et en bilingue.
Et 4500 volumes à peu près?
Oui.
D'après ce que j'ai lu, hein, 4500 volumes, il y a de quoi lire chez vous. Et,
oui.
c'est bilingue, donc on peut... Enfin, pas tous, je suppose, mais vous pouvez accéder à des ouvrages qui sont traduits. Et vous avez vous-même enseigné la littérature, hein, Tito,
oui,
c'est ça ?
Oui, à Paul Valéry.
À Paul Valéry, donc voilà, on a affaire à des spécialistes. Alors vous voyez qu'il n'y a pas que la ruralité au Portugal, bien qu'elle soit importante quand même.
Oui.
C'est un très joli pays. Même les Français ont tendance à vouloir passer leur retraite là-bas. vous avez remarqué.
Oui, alors je les invite, s'ils veulent aller là-bas, à aller à la campagne, parce que c'est là qu'on a besoin de monde, parce qu'en ville, on n'a plus besoin de personne.
vous êtes plutôt originaire de Porto, hein, c'est ça vous,
oui,
hein,
de la ville de Porto.
La Porto, une magnifique ville que j'ai eu la chance d'aller visiter, en tant que touriste, hein, bien entendu, mais avec quelques conseils de Tito quand même. Il m'avait donné quelques adresses que j'ai été visiter.
Bah, je viendrai pour une émission là-dessus, si tu veux. Par contre, il faut connaître Setúbal, qui n'est pas que la ville des lavandières du Portugal.
Ah, c'est vrai. Alors on a décidé de vous garder un peu plus longtemps que 10 minutes. On a décidé de vous garder. On va faire une émission un peu plus longue. C'est notre directeur d'antenne, Bruno, qui vient de nous le dire. Donc, on peut continuer.
On est ravis.
Voilà, continuons à développer. Alors, d'abord, on peut parler de l'exposition, bien entendu, mais aussi, de façon générale, de la Casa Amadís.
Alors, la Casa Amadís, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah, on a une école pour les enfants, ça c'est très important, oui. Et qui est gratuite et ouverte à tous.
Les cours.
Des cours de portugais, oui. Avec diplôme d'État.
Et s'il vous plaît.
Donc, par exemple, pour les enfants de français, que ce soit de primaire ou de collège, même de lycée, même s'il y a un lycée à Montpellier qui enseigne le portugais, oui. Ceux qui sont dans les lycées où il n'y a pas le portugais peuvent venir chez nous et apprendre le portugais. Ils auront droit à un diplôme à la fin qui leur donne accès, par exemple, à l'université. Directement, ils peuvent. C'est comme avoir un bac de portugais.
Oui, mais, et quelque chose qui doit aussi arriver dans votre association, ce sont des gens qui ont double nationalité ou qui ont un parent d'une nationalité et l'autre franco-portugais. Et là, souvent, c'est pour continuer à parler le portugais s'ils sont à Montpellier.
Alors, c'est un problème surtout à Montpellier parce que ce n'est pas une ville de première immigration en général. Les gens viennent ici une fois qu'ils sont déjà français ou qu'ils ont vécu un certain temps en France. Puisque comme c'est une ville de service, que viendrait faire ici une personne qui vient juste d'arriver, qui n'a pas de diplôme, etc. Donc, normalement, ce sont les enfants des émigrés, voilà. Qui, de la deuxième génération, qui vient à Montpellier, qui s'installe à Montpellier. Autour de Montpellier, par contre, on a des vrais immigrés
de première génération.
Exactement, notamment à Frontignan, etc., qui sont des gens qui sont venus il y a longtemps et qui se sont installés, qui font qui travaillent dans les métiers qui n'exigent pas souvent des diplômes. Mais à Montpellier, il faut avoir à moins son bac, oui, normalement, pour trouver un travail. Quoi.
Alors, c'est un petit peu toute proportion gardée, comme vos voisins de la péninsule ibérique à Mogio.
Hein, exactement.
Les Espagnols de Mogio, ils sont arrivés il y a longtemps, et puis maintenant, il y a la deuxième génération, troisième génération.
C'est exactement la
même chose.
Ils ont
besoin de parler l'espagnol aussi. Hein,
parce voilà.
On perd un peu la langue quand on s'installe.
Et alors, le problème, surtout quand il y a quand les couples binationaux, c'est très difficile de parler la langue à la maison. Et donc, ils ont vraiment besoin de ça déjà pour parler la langue. Et puis, les gens ont découvert petit à petit quand même que le portugais n'est pas inintéressant.
C'est vrai.
Et que ça ouvre énormément de portes.
C'est une langue. Hein,
moi, j'aime bien donner cet exemple. Par exemple, l'école d'architecture à Montpellier offre des masters, etc., notamment au Portugal. Et les plus recherchés, c'est au Portugal. Tout le monde, je ne sais pas pourquoi, si je le sais très bien,
pour l'architecture, peut-être.
Va absolument aller étudier au Portugal et finir ses études au Portugal. Et
à Porto, il y a une grande école.
Pratiquement tous les ans, parce qu'il faut quand même un certificat, viennent me voir. Ah oui, je parle espagnol, est-ce que je ne peux pas avoir le certificat? Je dis non, moi je ne vais pas faire un fou. Hein. Donc avec espagnol, ça ne suffira pas pour étudier au Portugal. Et donc, voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres.
Et au Portugal, je pense qu'il y a aussi la jeunesse, elle parle beaucoup anglais aussi.
Ah hein, oui. Maintenant, le français est fini, malheureusement.
Oui, hein, le français et l'espagnol, peut-être moins que l'anglais là, dans la jeunesse. Hein, l'anglais, elle est
Les portugais baragouinent l'espagnol, oui, parce qu'on appelle le portignol, mais ils ne parlent que anglais, vraiment.
Oui, donc c'est bien de remettre un peu les choses à leur place, hein, de tous ces clichés, vous savez, les clichés qu'on peut avoir sur nos voisins qui sont donc aussi ici à Montpellier, chez nous, avec cette formidable association. Alors on revient peut-être à l'exposition, on en reparle un petit peu.
Alors l'exposition, c'est à lui de parler de l'exposition. Alors c'est organisé comment? Il y a 20 panneaux, c'est ça, que tu as fait sur toile?
Oui, oui, oui.
Voilà,
c'est grande dimension.
De grande dimension.
Alors, quelle est la taille à peu près? Enfin, il y en a de différentes tailles, je suppose.
Tu me donnes la taille, je traduis.
La taille des panneaux.
Des panneaux. As telas sont de quel tamanho?
À peu près.
De mètres par. Oui.
Un mètre sur deux?
Ah, c'est énorme déjà, c'est déjà énorme. Ce sont des grandes
oui, toiles. Et ce sera à l'espace Jacques Ier d'Aragon, parce que déjà, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour placer une exposition de cette dimension.
Vous avez poussé les murs, Tito, un peu?
On va voir comment est-ce qu'on s'arrange. Il n'y a pas beaucoup de murs là-bas.
C'est une installation.
C'est une installation. Oui. Et ça commence donc, il faut quand même le dire, le lundi 3 avril. C'est le premier jour de l'exposition, Tito?
Absolument. Et l'inauguration est à 19h30 avec un pot, donc les gens peuvent venir ne serait-ce que pour voir.
Ne serait-ce que pour voir.
Pour voir.
Donc ça, c'est le jour du vernissage, comme on dit. Oui, mais après, ça reste combien de temps?
Ça reste une semaine. À Montpellier, c'est toujours une semaine. Donc, malheureusement,
donc il faut vous dépêcher, les auditeurs de Divergence FM, d'aller voir ce travail de, nous, on a la chance de l'avoir avec nous, l'artiste là, hein, juste à côté de moi, qui va présenter donc cette exposition. C'est une exposition qui, après, est itinérante, vous la faites?
Oui.
Voilà,
pour votre ville, oui.
On a une proposition à Perpignan déjà.
Déjà à Perpignan.
Et puis je vais voir à Paris probablement.
Ah bah voilà.
Et puis au Portugal, c'est toi qui sais.
Là c'est vous qui.
À Lisbonne, c'est toi.
Alors on rappelle un petit peu, donc il s'agit d'une exposition qui s'appelle Les mots.
Les mots.
Les mots. Et donc pourquoi? Parce que c'est sur un chanteur. Un chanteur de la
Révolution. Les mots de le chanteur.
Voilà, un chanteur de la Révolution. Donc, on a compris des œillets il y a 50 ans. Hein, il y a 50 ans. Et ce chanteur avait un peu bouleversé le fait qu'on pouvait chanter des chansons engagées. C'était très difficile avant. C'est ce que disait Tito tout à l'heure. Donc, il a bousculé un peu l'ordre établi, on peut dire ça.
Et ça, d'ailleurs, ce n'était pas il y a 50 ans qu'il l'a fait. Il l'a fait au courant des années 60.
D'accord.
Je ne sais pas.
Oui. C'était pendant la dictature qu'il a commencé,
bien sûr.
Et donc, après, heureusement, on est sorti de cette dictature il y a quelques années. Il y a encore des gens qui ne savent pas comment ça se passe politiquement au Portugal. Pourtant, il y a eu beaucoup d'évolutions, alors des hauts et des bas, nous sommes bien d'accord.
Côté démocratie, ça va mieux qu'en France.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Et c'est pas difficile.
Difficile. Nous, on est plutôt sous un régime autocratique, on peut dire. Hein.
Oui. Alors, nous, on a la chance d'avoir ce qui est considéré par beaucoup de spécialistes comme une des meilleures constitutions.
Constitution, voilà.
Parce que c'est une constitution qui a un très grand équilibre des pouvoirs. Entre le président
et le parlement.
Le parlement et le premier ministre. Mmh. Chacun a une tâche claire et définie. Mmh. Et donc, il y a des contre-pouvoirs. Il y a déjà ces trois-là. Il y a la justice en plus. Donc, il y a...
La presse. Alors, la presse.
Et la presse, malheureusement, elle est comme en France.
Dominée.
Dominée par
quelques personnes, comme en France.
Exact.
Ah, nous, on est bien peu placés en France aussi pour en parler. Il me semble la presse dominante, elle est bien dominée.
On serait bien content que ce cinquième pouvoir, disons, au Portugal, soit un peu plus démocratique.
Eh bien, écoutez, on va terminer cette interview croisée entre Tito. Je rappelle, à partir du 3 avril, il faut y aller. C'est facile à trouver. On va faire un petit article dans Divergence FM sur le site de Divergence qui renverra vers les photos et tout ça.
Hein? Bien.
Merci d'être venu en tout cas à tous les
Merci
trois,
moi.
Même si on ne vous a pas entendu dans le coin là-bas, mais vous étiez là parce que c'est vous qui avez rédigé des textes, hein, des textes pour illustrer vos tableaux. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.